VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Comore, le colonel Azali Assoumani est élu président de l'archipel. Selon les résultats officiels du second tour de la présidentielle de dimanche dernier, rendu public aujourd'hui par la commission électorale. Le colonel Assoumani, 57 ans, qui était soutenu par l'ancien président et toujours très populaire, Ahmed Abdallah Sambi, a obtenu 40,98% des suffrages. Il devance le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soili, dit Mamadou, qui recueille 39,87% des voix. Le troisième candidat en lice, Mouini Baraka, gouverneur de la Grande Comore, est nettement distancé par ses rivaux. Azali Assoumani avait déjà dirigé les Comores au début des années 2000. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en avril 1999, il avait gardé les rênes du pays et accédé à la présidence 3 ans plus tard à la suite d'élections. Au Tchad, 5 jours après la présidentielle du dimanche, le dépouillement du vote continue à travers le pays. À Sar, chef-lieu de la région du Moyen Chari, dans le sud du Tchad, plus de 60 procès-verbaux ont disparu au lendemain du scrutin. Les détails avec notre correspondant Jamina André Kodmajingar.
Considéré comme le fief du candidat Joseph Dimrangar Datnadji du parti Cap Sur, cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, cette tentative de fraude risque de jouer sur lui. Informé de la disparition de ses procès-verbaux, une équipe a été dépêchée sur place pour constater les faits. Béni Toralta Laya, membre de la direction nationale de la campagne du candidat de Cap Sur de retour de Sahara, demande réparation.
Ces procès-verbaux ont été sciemment retirés parce que c'est là où le candidat de Cap Sur a dévancé les autres avec un score fleuve. Alors, nous demandons qu'il y ait réparation. On a ramené les procès-verbaux au nombre de 62 procès-verbaux, dont 2 pour la sous-préfecture rurale de Sahara et 60 pour la sous-préfecture de Balimba. Alors, ils veulent réintégrer le délégué de la CENI à refuser. Nous aussi, nous disons que nous n'accepterons pas parce que c'est fait à dessein pour permettre à ce que le candidat du Cap Sur perd toutes ses voix.
Béni Toralta Laya informe par ailleurs que non seulement sa formation politique exige la démission des membres de la CENI communale mise en cause, mais qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes du pays.
Nous avons demandé la démission de ces deux membres de la CENI et en même temps nous avons déposé une poursuite au parquet de Sar pour qu'ils soient poursuivis et punis conformément à la loi. Et nous allons aussi préparer une requête pour la Cour constitutionnelle parce qu'on a fait ça sciemment. Si on annule, ça ne nous arrange pas parce qu'effectivement c'est ce qui est en train de se préparer. On vient de nous informer comme quoi le candidat du MPS demande à être élu dès le premier tour avec 64%. Et c'est en éliminant là où les autres l'ont battu. C'est comme ça qu'on va procéder à arriver à 64%.
Joint au téléphone par VOA Afrique, Kimto Poyon, l'un des membres de la CENI communale de Sahara mise en cause, rejette cette accusation.
C'est des fausses accusations. On nous accusait pour les 10 PV de la commune de Sahara qui restaient, on allait le comprendre. Les 47 PV, nous ne nous reconnaissons pas dans ça. Et quand ils ont déposé leur plainte, la justice fera son travail et nous aussi, on va rebondir par rapport à cette accusation calomnieuse contre notre personne. Et moi, je vous parle devant Dieu et au nom de Dieu.
Après avoir observé les irrégularités dans le déroulement du vote et la centralisation des procès-verbaux à N'Djamena, le PLD, Parti pour les libertés et le développement, exige de son côté le renvoi de tous les membres de la CENI centrale et leur remplacement par des personnalités plus consciencieuses et compétentes. Car, selon le PLD, ces irrégularités violent de façon flagrante les articles 19 et 73 du Code électoral. André Kodmajingar N'Djamena, pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition congolaise tente de rallier la communauté internationale à sa cause après la réélection controversée du président Denis Sassou Nguesso. Une délégation est actuellement en visite à Washington. Maître Norbert Tricot, l'avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko, toujours assigné à résidence, plaide pour une assistance humanitaire au Congo-Brazzaville. On l'écoute au micro de Nicolas Pinault.
Nous avons effectivement prévu d'engager des recours, mais pour nous, l'urgence, ce n'est pas l'encerclement du général, son atteinte à son droit d'expression alors que la Constitution le prévoit, mais c'est surtout la situation du peuple congolais et ses massacres. C'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso fait comme M. Bachar al-Assad, le dictateur syrien. Il tue son propre peuple. Et donc ce que souhaite le général Mokoko, et c'est aussi pour ça que nous sommes venus à Washington, c'est que nous mobilisions la communauté internationale pour que soit mis en place très rapidement un corridor humanitaire principalement dans le département du Poul, mais également aussi dans le reste du sud du pays, puisqu'il y a également des exactions à Pointe-Noire et dans la région de Pointe-Noire. Donc, nous souhaitons que, sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit organisé ce corridor humanitaire qui serait géré par le Comité international de la Croix-Rouge.
Maître Norbert Tricot, l'avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko au Congo-Brazzaville.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, les organisations de la société civile vont manifester à Niamey le 24 avril prochain à l'appel du collectif Résistance citoyenne. Elles entendent dénoncer ce qu'elles considèrent comme une mascarade électorale qui a conduit à la réélection du président sortant Issoufou Mahamadou pour un nouveau mandat de 5 ans. Abdoulaye Oumarou est l'un des responsables de ce collectif.
Il a été constaté que tout au long du processus électoral, la loi a été violée, torturée ou carrément mise de côté lorsqu'elle n'a pas été superbement ignorée au mépris des règles élémentaires de droit. La démocratie nigérienne est avant tout notre bébé. Nous ne pouvons accepter, après tant de sacrifices consentis pour l'avoir vu naître et tant de luttes menées, parfois au péril de notre liberté et de notre vie, qu'elle soit mise sous coupe réglée et qu'elle devienne la chose de quelques individus prêts à tout pour conserver le pouvoir et abusant de la démission et de l'irresponsabilité notoire de l'opposition politique, pourtant institution constitutionnelle de contre-pouvoir pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. C'est pourquoi le collectif Résistance citoyenne décide de se battre contre la dictature en marche dans notre pays pour restaurer la démocratie et l'état de droit au Niger. Lance un vibrant appel à tous les Nigériens, à tous les citoyens nigériens attachés aux valeurs démocratiques chèrement acquises de haute lutte, de sortir massivement pour prendre part à la marche citoyenne pour la restauration de la démocratie qu'il organise le dimanche 24 avril 2016 sur l'ensemble du territoire national.
Abdoulaye Oumarou du collectif Résistance citoyenne au Niger. Deuxième et dernier jour du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul, en Turquie. À l'ouverture de la réunion, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les dirigeants musulmans à surmonter leurs divergences confessionnelles pour mieux lutter contre le terrorisme. Idriss Fall.
Le centre d'Istanbul est quadrillé par plus de 5000 policiers. La 13e conférence de l'OCI rassemble les représentants de 56 pays, dont une trentaine de chefs d'État, devant ses hôtes, dont le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani. M. Erdogan a déclaré que sa religion n'est pas le sunnisme ou le chiisme et que les musulmans doivent s'unir pour faire face au terrorisme. Il a annoncé la création prochaine d'un centre pour la coopération des polices des pays de l'OCI, une sorte d'Interpol islamique basé à Istanbul pour coordonner la lutte antiterroriste. Le président turc a aussi déploré l'augmentation de l'islamophobie dans certains pays occidentaux qui, selon lui, parlent des attentats de Bruxelles et Paris, mais très peu des attentats d'Ankara ou de Lahore au Pakistan.
Regain de violence en Syrie, plus de 200 combattants de différentes forces armées tués depuis dimanche dans les combats qui font rage dans la province d'Alep, dans le nord du pays. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, Saloua Jafari.
Alep, quartier général Al-Mashhad, bastion de l'armée syrienne libre, une centaine de manifestants demandent le départ de Bachar al-Assad et se félicitent de leurs derniers exploits. Pourtant, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont fait plus de 200 morts parmi les différentes factions armées depuis dimanche, sans qu'aucun camp n'ait eu concrètement avancé sur le terrain. Ce regain de violence survient alors que des pourparlers pour un règlement politique de cette guerre ont lieu à Genève sous l'égide de l'ONU. La délégation du régime syrien est arrivée vendredi en Suisse pour participer à ces négociations indirectes avec les rebelles. Le principal point d'achoppement reste le rôle du président Bachar al-Assad, que l'opposition voudrait voir partir dès le début de la transition politique. Sur le plan humanitaire, le constat est alarmant. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, 30 000 civils ont fui en 48 heures les combats opposant les djihadistes du groupe État islamique aux rebelles dans les secteurs de la province d'Alep, bordant la frontière avec la Turquie.
Pour terminer au Brésil, nouveau revers pour la présidente Dilma Rousseff avec le début aujourd'hui au Parlement de la procédure visant à sa destitution. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.